Merci d'écouter RFI, les 5h30 à Paris et Kinshasa, 6h30 à Bukavu. Et ce matin, on retrouve Pierre Boudias pour l'Info africaine. Bonjour Pierre.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous. Situation confuse à Bukavu, dans l'est de la RDC. Des éléments du M23 ont été aperçus dans la capitale du Sud Kivu, dont le groupe ne revendique pourtant pas la prise. Vous entendrez le témoignage d'un habitant plongé dans l'incertitude. Une nouvelle offensive qui ne restera pas sans réponse, c'est la réaction de l'Union européenne qui promet de réagir avec tous les moyens à sa disposition. Le patron de l'ONU met une nouvelle fois en garde contre une escalade régionale. Mahmoud Ali Youssouf, nouveau président de la commission de l'Union africaine, le diplomate djiboutien élu hier au détriment du Kenyan Raila Odinga, une nouvelle défaite électorale que l'homme de 80 ans a surprendre avec philosophie. Et puis l'ancien premier ministre de l'île Maurice placé en détention, Pravin Jugnauth, interpellé hier pour des soupçons de blanchiment d'argent au cœur de l'affaire, la saisie de 4 valises contenant plus de 2 millions d'euros. Qui contrôle la capitale provinciale du Sud Kivu? La situation reste incertaine ce matin dans l'est de la République démocratique du Congo où la FCM 23 poursuit son offensive. Des éléments du groupe sont signalés dans les rues de Bukavu depuis hier. Information d'ailleurs confirmée de sources gouvernementales congolaises. Pourtant, la direction de la milice soutenue par l'armée rwandaise ne revendique pas la prise de la ville auprès d'un million d'habitants, mais les appelle à s'organiser. Sans plus d'informations, les riverains ont passé la journée d'hier dans l'anxiété. Exemple avec cet habitant du centre-ville. S'il dit n'avoir assisté à aucune violence, des tirs sporadiques ont bien résonné toute la journée dans la ville. Des coups de balle, selon ses propres mots.
Il y avait des coups de balle, mais on a appris au courant de la journée que c'était plutôt des jeunes qui avaient pu prendre des armes et qui se sont mis à tirer afin de pouvoir faciliter des pillages pour eux-mêmes. Je récite des témoignages des gens qui ont vu leur boutique pillée. Donc, jusqu'à maintenant, à 23h, on ressent encore quelques coups de balle. Donc, on espère que lorsque l'ordre pourra intervenir, que cette situation pourra cesser. Heureusement que l'électricité fonctionne, l'eau courante aussi fonctionne. On a accès au réseau téléphonique, même à la communication 4G, même s'il y a des perturbations. C'est vrai qu'on s'était préparé, on avait acheté des piles. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'interruption du courant. On avait fait aussi des provisions d'eau. On prétend que les forces de l'ordre régulière, les FARDC, seraient en train de rentrer et que, bon, les forces du M23 sont en train de quitter. Mais d'autres ont dit que ça serait une digression. Il est difficile pour le moment de tirer tout ça au clair.
Des propos recueillis par Amélie Tullet. Du côté de la communauté internationale, les réactions à cette offensive de la milice dissidente ne se sont pas fait attendre. Les appels au cessez-le-feu, pour l'instant restés lettre morte, se sont multipliés ces dernières heures à Kinshasa. Paulina Zidi.
Condamnation ferme du côté de l'Union européenne. La diplomatie de l'UE s'alarme du non-respect du cessez-le-feu et promet que la violation de l'intégrité de la RDC ne restera pas sans réponse. L'UE, je cite, examine d'urgence tous les moyens à sa disposition. On sait que l'idée de sanctions a plusieurs fois été évoquée du côté de Bruxelles, mais que les États membres sont encore divisés sur la question. Forte inquiétude aussi du côté des Nations Unies, comme lors de la prise de Goma, Antonio Guterres hausse le ton et prévient du risque d'escalade régionale, un discours que le chef des Nations Unies a tenu en marge du sommet de l'Union africaine. Il est d'ailleurs l'une des rares voix à Addis Abeba à avoir évoqué cette nouvelle offensive du M23. Aucune mention de la situation à Bukavu dans les prises de parole, si ce n'est Moussa Faki Mahamat, président de la commission, qui a réclamé vendredi l'application du cessez-le-feu demandé la semaine dernière par les régions est-africaines et australes lors d'un sommet extraordinaire en Tanzanie. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Et autre réaction hier, celle du président français sur X. Emmanuel Macron assure s'être entretenu avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Il appelle à un cessez-le-feu et à des garanties de sécurité pour permettre le retour des autorités militaires et civiles congolaises dans la capitale du Sud Kivu. Et si la situation à Bukavu, vous l'entendiez, n'a pas encore été officiellement évoquée au sommet de l'Union africaine, à part par l'ancien président de la commission, Moussa Faki Mahamat, le conflit a malgré tout débordé sur le protocole de cette réunion à Addis Abeba. La première ministre congolaise a en effet refusé hier de prendre place sur la photo officielle. Hors de question de s'afficher aux côtés de l'agresseur, explique-t-on dans son entourage, alors qu'une délégation rwandaise est présente à ce sommet. Et dans ce contexte de forte tension, c'est une nouvelle fois sur le réseau social X que le fils du président ougandais a tenté de mettre le feu aux poudres dans une série de tweets. Muhoozi Kainerugaba menace de marcher avec ses troupes sur la ville congolaise de Bunia, située dans une autre province en proie à l'instabilité, celle de l'Ituri. Mais quel crédit donner à ces nouvelles déclarations? déclaration alors que le général est coutumier des sorties polémiques sur les réseaux sociaux. Il avait par exemple assuré pouvoir s'emparer de Nairobi en 2 semaines. Pour Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI, si ce dernier n'est pas le porte-parole des autorités congolaises, ces déclarations incendiaires ne peuvent pas être complètement ignorées.
On espère que c'est délirant, parce que sinon ça veut dire que l'Ouganda veut aussi son morceau de RDC, hein, comme Kigali. L'Ouganda s'emparerait de la province congolaise la plus proche de son territoire aussi, de façon à ce qu'il ne laisse pas le Rwanda dépecer seul l'Est congolais. Si ça se confirmait, on reviendrait en 1997. Bon, on est en 2025, hein, mais je veux dire... Bah. De toute façon, quand on entend la rhétorique du M23, eux, ils sont dans une rhétorique AFDL 97. Ils disent, on va aller à Kinshasa, on va reprendre le pouvoir, machin truc. Eux, dans leur rhétorique, ils sont déjà en 97. Et c'est ça le problème des Grands Lacs. C'est qu'en 30 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans la région. C'est une région qui tourne en rond sur les mêmes problèmes depuis 30 ans. Et maintenant, on a des acteurs qui sont des acteurs déjà anciens, hein, parce que M23, il ne veut pas dire, qui parlent une rhétorique d'il y a 30 ans. Ça veut dire que rien n'a beaucoup changé dans la tête de certaines personnes. C'est complètement désespérant.
Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI. Nous l'évoquions il y a un instant, le 38e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se poursuit ce dimanche. Hier, les États membres se sont choisis un nouveau président de commission alors que le mandat de Moussa Faki Mahamat arrive à son terme le mois prochain. Longtemps présenté comme favori du scrutin, l'ancien premier ministre kényan Raila Odinga a finalement été battu au terme d'un long processus par le djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, actuel ministre des Affaires étrangères de son pays. Une énième défaite électorale pour le quintuple perdant des élections présidentielles kényanes. Raila Odinga, qui a pourtant voulu se montrer beau joueur au sortir des 7 tours de vote, il réagit au micro RFI de Florence Maurice.
J'ai passé ces derniers mois à parcourir notre continent, à discuter avec les dirigeants, à promouvoir mes politiques pour cette organisation. Les élections ont eu lieu aujourd'hui et nous n'avons pas réussi. Les membres ont exercé leurs droits démocratiques et ont voté pour M. Youssouf. J'accepte donc le résultat du vote et je félicite M. Youssouf pour sa victoire aujourd'hui. Et je lui souhaite de faire avancer l'organisation. Le vote était secret, c'est-à-dire vous ne savez pas qui a voté et qui a voté contre vous. Je ne veux pas dire, mais je suis sûr que la plupart de mes amis ont voté pour moi. La plupart des votants sont mes amis, mais ils ont sûrement pensé autrement. Ils ont donc exercé leurs droits démocratiques. Parce que lorsque vous participez à une élection, il ne peut y avoir que 2 résultats. Vous pouvez gagner ou perdre. C'est donc l'un des 2. Je ne suis pas amer. Je suis très heureux. En fait, vraiment, je suis toujours disponible pour offrir mes services au continent.
Et autre candidat malheureux à ce scrutin, le malgache Richard Randria Mandrato a lui félicité Mahmoud Ali Youssouf. Il appelle à réformer l'institution. À noter que c'est l'Algérienne Selma Haddadi qui a été élue au poste stratégique de vice-présidente de la commission. Elle obtient la victoire avec 33 votes face aux 2 autres candidates marocaines et égyptienne. RFI, il est 5h38 à Libreville, le Gabon, où les autorités espèrent dire au revoir aux coupures d'électricité. Le gouvernement a signé hier une convention de fourniture de courant avec la société turque Car Powership. Cette société a acheminé 2 bateaux-usines dans la capitale depuis mai dernier. Et si le Gabon avait annulé le premier contrat jugé trop cher, ce dernier a depuis été révisé et les Turcs ont déjà entamé la production de 70 mégawattheures qui manquaient pour équilibrer l'offre et la demande au Gabon. Mais des doutes persistent sur la fiabilité de l'énergie produite par ces bateaux turcs. À Libreville, les explications d'Yves Laurent Gomard.
Natacha, jeune infirmière de retour du marché central de ce samedi, toute furieuse, explique qu'elle a de la peine à remplir son...
On retrouvera Yves-Laurent Goma dans un instant. Partons d'abord à l'île Maurice avec l'ex-premier ministre mauricien qui a passé la nuit en prison. Pravid Jugnauth, interpellé hier soir et son domicile perquisitionné. Il est soupçonné de blanchiment d'argent. La saisie de 4 valises avec plus de 2 millions d'euros a déclenché une vaste investigation dans la journée d'hier. Précision de notre correspondant à Port-Louis, Abdullah Erali.
La police mauricienne a été fortement mobilisée hier après la découverte de 4 valises suspectes chez un opérateur du secteur touristique. Ces bagages contenaient plus de 2 millions d'euros répartis dans une dizaine de devises. Les documents saisis ont rapidement orienté l'enquête vers l'ancien premier ministre Pravin Jugnauth. Son domicile a été perquisitionné et lui ainsi que son épouse ont été longuement interrogés à la commission contre les crimes financiers. Les enquêteurs n'ont pas précisé quel lien concret existe entre ces valises et l'ancien chef du gouvernement. Ils indiquent toutefois que 10 perquisitions ont eu lieu hier et outre Pravin Jugnauth, Knut, 3 autres personnes ont été arrêtées. L'ancien premier ministre de Maurice a passé la nuit en cellule et sera présenté devant le tribunal de Port-Louis aujourd'hui pour sa mise en accusation provisoire pour blanchiment d'argent présumé. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement en novembre dernier, c'est la 4e arrestation majeure, dont celle de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice pour malversation présumée. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Voilà, et puis retour à Libreville, où les autorités ont donc validé hier un partenariat de fourniture électrique avec la société turque Car Powership. On retrouve tout de suite Yves-Laurent Gomain, notre correspondant.
3 ministres gabonais ont interrompu leur week-end pour signer la convention. Parmi eux, le ministre de l'Énergie, Séraphin Akouré-Davin, qui soutient que l'accord est une solution d'urgence pour soulager les populations.
Pendant près d'une 15aine d'années, nous n'avons pas entretenu nos équipements. Nous n'avons pas renouvelé notre parc énergétique. L'accord que nous signons aujourd'hui, c'est l'extrême urgence.
Les bateaux-usines des Car Powership vont dans un premier temps produire l'électricité avec le fioul lourd ou le gasoil. Ces deux combustibles coûtent cher et sont très polluants. Ali Aydjahes, directeur des opérations de la société turque, rassure.
Nous sommes prêts à fonctionner avec du gaz, mais je peux vous rassurer aujourd'hui qu'on doit se concentrer sur le succès où on est, qu'on doit se féliciter de cette solution qui est enfin prête à donner la réponse attendue par la population. Progressivement, on va commencer à résoudre les problèmes de délestage et en espérant dans le très court terme donner la réponse définitive et améliorer la situation actuelle à Libreville.
Pour le moment, l'on ne parle pas d'une éventuelle augmentation de la facture chez les consommateurs. Le gouvernement soutient qu'il poursuit les investissements pour sortir rapidement de la situation d'urgence actuelle. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
RFI, il est tout juste 4h42 en temps universel.